Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral, votre radio dinoise 99.3. Et nous allons tout de suite être avec Nelsine, qui est actuellement en résidence au Centre culturel René Char. Je vous propose d'écouter en début d'émission un extrait de cette répétition au Centre culturel René Char. On l'écoute tout de suite.
On fait la fin, le dernier parti là.
Voilà, c'était pour introduire donc cette interview que j'ai faite avec Nelsine il y a quelques heures. Nelsine qui est en concert au Centre culturel René Char ce samedi 20 février à 21h. Après son premier album Niepko et de nombreux concerts, Nelsine, météorite polonaise dans le ciel français, est en résidence de création Son et Lumière avec quatre de ses musiciens et musiciennes, dont des grands noms de la musique baroque, pour son nouveau spectacle concept En dehors, en dedans, un conte en 13 chansons aux accents parfois pop, parfois baroque, où les mots tombent, aériens, prennent corps, se matérialisent, se tordent et se transforment. Si les textes de Niepko étaient écrits en anglais, ici le choix de l'artiste s'est porté sur la langue française, créant une nouvelle ouverture vers son public. Cette artiste attachante, effrontée et tendre, une grande voix aux confins d'un ciel déchiré, argenté, allergique à toutes sortes de facilités. Sur scène, ses harmonies baroques prennent des airs de ce siècle, s'amusent et se déguisent, jouent à cache-cache, à découvrir d'urgence. Nelsine, à la voix, au piano, mais aussi aux arrangements, elle sera accompagnée d'une batterie, d'une basse, d'une flûte à bec, renaissance et viol de gambe ou violon baroque. Et je vous propose bien de l'écouter.
Une chose non vécue, immobile, endormie, l'innocence perdue dans le maison tombeau, morte de plus en plus, les richesses ternies. Caché entre les quatre murs, reviens à la vie.
Nelsine, en concert au Centre culturel René Char à Digne. Vous étiez en résidence toute cette semaine. Comment ça se passe, la résidence ?
On travaille beaucoup le son, un petit peu la lumière. Donc, il y a une nouvelle personne qui rejoint notre équipe aussi. C'est Cédric qui nous fait la lumière. Mais voilà, c'est surtout le son. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de parties à travailler. Parce qu'il y a des instruments très variés, avec un volume sonore qui n'a rien à voir. Par exemple, comme violon baroque ou le flûte renaissance, qui sont des instruments avec un volume sonore petit. Et par exemple, la batterie de Letty, qui est une batteuse qui en voit quand même pas mal. Donc déjà, rien que là, il faut vraiment quelqu'un qui est assez expérimenté pour pouvoir faire un bon son entre les instruments, entre guillemets, baroque ou renaissance, instruments anciens, et musique, et les instruments modernes comme batterie, basse, voilà, les instruments amplifiés, quoi. Donc, déjà ça, et puis il y a une notion de fréquence aussi, de couleur, c'est un peu expérimental de mettre ces deux instruments, enfin, de mélanger ces deux mondes, de musique ancienne, musique baroque, renaissance, avec musique actuelle. Donc, voilà, c'est un peu un risque, mais c'est aussi une aventure, donc, on s'amuse.
Vous êtes essentiellement entourée de musiciennes.
Oui, c'est vrai. Alors, c'était pas prémédité. Je suis très contente aussi parce que c'est vrai que ma musique elle est très féminine. Je travaille beaucoup sur le côté féminin. Et ça s'est fait vraiment par hasard. D'abord, j'ai rencontré en fait Marie-Hélène Tournobise, qui est violoniste et qui est venue déjà au début me soutenir pour les enregistrements de l'album. Donc pour ce même répertoire là, mais en version album pour le CD qui va sortir. Et en fait, on a beaucoup aimé travailler ensemble tout de suite. Et je lui avais proposé de venir carrément intégrer le groupe. Et heureusement pour moi, elle était d'accord. Et du coup, ça se passe très bien vraiment. Et un petit côté drôle, c'est qu'on s'est déjà rencontrés en plus avec Marie-Lyne Tournebise. Il y a des années, quand j'étais à Conservatoire d'Aix et que j'ai à l'époque étudié justement chant baroque, clavecin, basse continuo, et elle prenait déjà le cours de violon baroque à cette époque. Et on s'est croisés en fait, donc ça date il y a, je sais pas, 10 ans. Et moi, on s'est jamais trop parlé, c'est marrant qu'on se retrouve en fait dans ce complètement nouveau contexte. Ensuite, alors on a aussi donc la flûtiste Hélène Lovehall, où on s'est rencontrés après un de mes concerts avec Niepko, mon album précédent. Où en fait elle est venue grâce à interview dans le Fréquence Mistral, où elle a entendu, en fait, c'est vrai, elle a entendu cette interview où on parlait de concert, c'était je crois à Manosque. Et elle est venue parce qu'elle s'est dit waouh, un côté baroque, électro, j'ai envie de voir ça, comme c'est une baroqueuse aussi au départ. Ça lui a beaucoup plu, elle est venue pour presque tous mes concerts quand elles étaient dans le coin, à force en fait de la voir souvent. On s'est fini par se parler et puis on s'est rencontrés et j'ai appris qu'elle jouait la flûte Renaissance. Et là, je lui ai dit, bah, écoute, le prochain album, je te propose de venir jouer. Et pareil, c'est un peu comme avec Marie-Hélène, elle est venue pour l'album. Ça s'est très bien passé. On s'est très bien entendu humainement, musicalement. Vraiment, ça, c'est une évidence qui était là quoi, entre nous. Et elle a intégré le groupe aussi. Et Laetitia, c'était pareil, c'était vraiment un coup de cœur. Donc Laetitia, elle a fait pas mal de percus classiques, mais ensuite elle s'est spécialisée vraiment dans la batterie, donc elle joue plutôt vraiment dans la batterie, mais elle a cette approche aussi quand même entre les deux quoi. Donc autant percussion classique que batterie. Et j'étais vraiment dans une recherche désespérée à l'époque de batteuse ou de batteur d'ailleurs, et je trouvais pas parce que c'est vraiment pas évident de trouver quelqu'un pour ce genre de répertoire qui est pas vraiment dans un style on va dire connu ou particulier. C'est ni jazz ni blues ni vraiment ni baroque, mais un peu quand même, mais enfin bon. Et je rencontrais plein de batteurs et des très bons aussi, vraiment. Mais ils me disaient, mais je sais pas quoi jouer sur cette musique, j'ai aucune idée quoi faire. Et c'est vrai que moi, je suis incapable de créer la partie batterie. J'ai jamais joué à la batterie. Je viens de musique baroque, justement, où il n'y a pas de batterie. Donc j'ai du mal à imaginer, en fait, la partie rythmique. Autant toutes les autres parties, je les ai écrites, en fait. Donc tout ce que vous allez entendre en fait à la basse, piano, le violon et le flûte, ce sont les arrangements que j'ai faits, que j'ai tout écrit en fait. Donc elles ont tout eu la partition avant, donc voilà, c'est tout écrit par moi. Autant Laetitia, elle était obligée de tout inventer, enfin tout créer elle-même, et dans un temps record, parce qu'on s'est rencontrés au mois d'octobre. Et donc, je lui donnais le bébé avec l'eau et tout. Je lui dis, vas-y, débrouille-toi. Et elle était vraiment impressionnante parce que, voilà, c'est pas juste une. Ça, déjà, c'est une très très bonne batteuse, mais en plus de ça, c'est une vraie artiste, vraiment, avec beaucoup de sensibilité et une vraie créatrice, quoi, on va dire. Qui fait très attention aux paroles, qui déjà était sensible au sujet, même de l'album, au texte. À l'histoire, elle écoute des choses très très différentes et comme peu de batteurs, elle écoute pas que la batterie en fait, c'est ça aussi. Voilà, donc c'est un vrai bonheur vraiment à travailler avec elle et encore une fois, non seulement musicalement mais humainement aussi. Et voilà, on s'est connus que depuis 3 mois, mais on a l'impression qu'on a joué depuis toujours en fait ensemble. Donc c'est une grande chance, un gros cadeau de la vie pour moi.
Alors ça, c'est tout ce qui concerne l'équipe humaine féminine voilà. À la musique, mais il y a aussi un bassiste.
Oui, il y a un bassiste, et puis il y a Christophe Becquereau aussi qui fait le son, et Cédric qui va faire la lumière, qui nous rejoint tout dernièrement. Alors Migou, donc à la basse, ben, je l'avais rencontré déjà plusieurs fois au Café Quoi, parce qu'il va souvent faire les scènes ouvertes là-bas, il a l'habitude. Et j'ai beaucoup aimé en fait son côté très très vivant, très ça se voit que c'est quelqu'un qui a un rapport très spontané en fait avec la musique. Et à l'époque où la première fois je l'avais vu, moi j'étais encore dans la musique baroque et avec où il y a beaucoup de rigueur et il y a pas toujours ce côté spontané. Déjà beaucoup plus que dans le classique, je trouve personnellement, parce qu'il y a de l'improvisation alors que dans le classique par exemple non. Puis déjà, je trouvais ça, pour moi, c'était un univers très vivant, mais quand même, il y a un côté très rigoureux, c'est une musique savante. Et Migou, il vient vraiment il y a ce côté très spontané, où il a au début beaucoup appris en autodidacte. Il a fait beaucoup de scènes. Ensuite, il a eu un parcours jazz plus. Donc après, il a fait aussi des études beaucoup plus tard. Donc il a en fait ce rapport spontané que je trouve génial et que j'ai beaucoup aimé dès le début. On a fait une fois scène ouverte au Café Quoi et j'ai beaucoup aimé en fait ce qui se passait entre nous sur scène. Et donc on s'est dit un jour on fera un truc ensemble. Et puis quand il a entendu que je commençais à faire une recherche de musiciens pour mon nouvel album, c'est lui qui m'a contacté tout de suite. Il m'a dit oui, je vais faire partie de ce projet. Il était le premier avant que le morceau soit même écrit. En fait, c'était là. Et ah non, il m'a dit moi je suis dedans, c'est bon. Voilà, j'avais déjà bassiste alors que j'avais rien écrit encore.
Super.
Voilà. Et Christophe Becker, alors ça c'était aussi une magnifique rencontre parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de métiers, qui a travaillé avec Tetraed, qui a fait le premier des albums de Tetraed, je crois. Enfin, c'est aussi quelqu'un qui est très humble. Il parle pas beaucoup de ce qu'il a fait, mais j'ai entendu par d'autres personnes que c'est vraiment un grand monsieur du son. Et j'ai eu de la chance de rencontrer par James parce qu'il a déjà l'habitude de travailler avec James Fontaine. Et qui m'a dit, c'est James qui m'a parlé de lui, qui est un ami en fait, qui m'a dit plus grand bien. Et je lui ai proposé, il a accepté. Apparemment, le projet lui plaît beaucoup. Et donc, on a commencé à travailler pareil depuis à peu près octobre ensemble. Et ça, pareil, ça se passe vraiment très très bien. Et Cédric, c'est notre tout dernier. Il nous a rejoint tout dernièrement. Voilà, parce que bon, c'est vrai que pour l'instant on est vraiment axé sur le son, quoi, principalement. Et le côté spectacle viendra un peu plus tard. Donc voilà.
Alors moi, je me souviens vous avoir interviewé il y a quelques années. Vous avez fait un grand chemin depuis. C'était à l'époque de Niepko. Même à l'époque, vous n'aviez pas spécialement le souhait d'écrire en français. Et maintenant, c'est là et c'est bien là. Comment ça s'est passé, cette aventure pour écrire donc 13 contes en français? Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire en français et comment ça s'est passé?
Alors, qu'est-ce qui m'a motivée? Que je me suis absolument pas imaginée jamais écrire quelque chose en français parce que j'estime que je possède pas assez bien la langue française. Je me débrouille en fait. J'ai jamais appris ça. J'ai appris en arrivant en France comme ça, pas du tout avec les livres, pas à l'école. Donc je parle un peu patinègre, on va dire quand même en français. Et c'est en fait les gens, souvent le public après le concert, qui me demandaient la traduction de mes paroles, très souvent. Et même pour ça aussi, il y avait une période où j'avais fait un spectacle justement avec James, où il traduisait, on a fait une traduction de paroles, qui était écrite en anglais, pour que les gens puissent avoir l'accès en fait un peu plus au texte. On a fait un spectacle un peu comme ça, ça s'appelait juste, comment ça s'appelait ? Métissage, voilà, c'était Métissage. Voilà. Puis petit à petit, après, on a fait un peu mélanger nos demandes. Enfin, le spectacle, il a évolué après, plus. Mais au départ, c'était ça l'idée, en fait, de traduire le texte par le moment où lui, il récitait. Moi, je le chantais. Les gens, ils avaient plus accès au texte. Parce que c'est vrai que le texte, ils étaient quand même toujours importants. Donc, j'avais déjà cette idée. Je me disais, c'est vrai, c'est dommage que les gens ne puissent pas comprendre le texte. Donc, j'avais un peu cette frustration au début. Puis les gens me demandaient beaucoup et finalement, je me suis dit, ok, je veux prendre ce risque. C'est un challenge. Je vais essayer d'écrire quelques petits morceaux en français, peut-être un ou deux morceaux en français, en attendant aussi pour faire patienter en fait les gens avant mon prochain album, qui est toujours parfait parce que c'est un autre en fait. Je me suis dit, ouais, je veux sortir peut-être un petit EP de 3-4 morceaux, 5 morceaux en français. Et je me suis mis au travail et en fait, ça a complètement pris vie. Pas du tout quand je me suis attendue, parce que je voulais faire simple, je voulais faire piano-voix, juste, voilà. Et puis, finalement, j'ai écrit 13 morceaux. Ils ne sont pas tous en français. Dans le lot, il y a 2 en anglais et 1 en polonais. Mais quand même, 10 chansons en français. Et donc, voilà, je me suis retrouvée avec ça et je me suis très vite dit que quand même sur un album entier que avec piano-voix, c'est vrai, ça se fait, mais pourvu que ça tombe sur quelqu'un de public qui aime pas piano, bah, déjà tout de suite, c'est mal barré. Donc je me suis dit, j'ai envie quand même de faire quelques petits arrangements, peut-être un peu de basse, un peu de batterie, Et là, c'était une grossière erreur, parce que quand je me suis mise, alors je n'ai pas pu m'arrêter, et j'ai fait des arrangements de folie, en fait, avec des trompettes, des hautbois, des clavecins, des viols de gambe, des violons, voilà, que vous allez entendre sur l'album quand il va sortir. Et ensuite, pareil, donc quand je commence à faire ces arrangements-là, je me suis dit, bon, bah, alors maintenant, comment faire sur scène aussi? Pareil, parce que je ne vais pas pouvoir payer encore, à chaque fois, prendre 20 musiciens à tous les concerts, parce qu'il faut les payer. Pour l'instant, je n'ai pas encore assez de notoriété pour demander des cachets aussi gros. Donc voilà, là, j'ai trouvé une pour ce que vous allez entendre là. C'est une formation réduite et qui est un peu un bon compromis, mais pas seulement compromis, parce que du coup, elle donne encore plus ses côtés. Musique actuelle, que en comparaison avec ce que vous allez entendre sur l'album. Et avec formation réduite, donc deux instruments mélodiques, violon, flûte à bec, Renaissance, piano, batterie et basse. Voilà, donc il y a vraiment ce violon baroque Renaissance qui donne le touche musique ancienne. Basse, batterie qui donne des touches tout de suite très musique actuelle, et moi qui est entre les deux, on va dire. Voilà, qui fait un peu le lien entre les deux mondes.
On sent la grande musicienne, puisque c'est vraiment votre partie. Par rapport à la composition donc de ces textes en français, c'est d'abord, vous êtes à votre piano pour écrire, ou comment ça se passe pour les mots, ou vous êtes devant un bureau? Non, il vous faut l'instrument avec.
Pas forcément, à chaque fois c'est différent. Vraiment, chaque chanson a son histoire. Autant, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Mila. Je vais vous raconter une anecdote parce que c'est vraiment c'est rigolo. Hein. C'est à l'époque où je suis allée à Grenoble à faire des concerts, et je rencontrais dans une de mes concerts, il y avait je voyais une femme devant la scène qui était dans tous ses états pendant tout le concert, qui pleurait pratiquement tout le temps, mais de joie en fait. Et j'ai senti un lien, des fois ça se passe vraiment comme ça avec le public, où je sentais que plus je donnais l'énergie, plus elle me redonnait cette énergie, et ça circulait entre nous. Et du coup, je fais un concert, vraiment, pour moi c'était incroyable, et apparemment pour elle aussi. Et très vite on se parlait après, on est devenus amis, enfin, pas tout de suite, mais enfin on avait tout de suite une connexion. Et en tout cas, c'est pour dire que... Par la suite, elle a trouvé d'autres dates à Grenoble pour que je revienne, en fait. Et à chaque fois, quand je suis revenue, elle nous a logés carrément chez elle. Et à cette époque, on s'est pas encore connus très bien. Mais il se passait quelque chose entre nous tellement fort que quand je suis rentrée chez moi, j'avais déjà le texte complet dans ma tête. Mais ça se passe, c'est rare que ça se passe comme ça. Mais j'avais vraiment le texte complet en français sur elle, enfin, qui parlait d'elle, en fait. Et j'avais plus qu'à mettre des accords, en fait, parce que la mélodie, elle était tellement évidente que j'avais plus qu'à trouver les accords, et plus tard, je trouvais l'arrangement et l'orchestration de morceaux, quoi. Mais ça, c'était vraiment, voilà, c'était un particulier, c'était un événement fort. Elle m'a fait vraiment penser à un livre qui s'appelle « Les femmes qui courent avec les loups ». Je sais pas si tu connais, de Pincola Estes, de la femme sauvage, en fait. Elle m'a vraiment pensé à cet archétype de femme sauvage, et... Voilà, c'est incroyable. Et puis j'ai écrit des choses où je parle, il y a des choses très concrètes où je parle dans la chanson. Et il se trouve que j'ai appris par la suite qui correspondent à des réalités auxquelles je n'avais pas accès moi à l'époque. Donc c'est rigolo. Par exemple, je parle de la déesse mexicaine. Et il se trouve qu'elle allait au Mexique, elle a un lien très fort avec cette déesse, elle a une statuette à la maison, et ça je ne savais pas par exemple, donc c'est vraiment magique quoi. Il y avait une connexion dans l'inconscient qui se passait, je ne sais pas. Puis il y a d'autres morceaux, par exemple, pour vous donner un peu... le dernier par exemple, c'est le « En dehors, en dedans », celui qui porte le nom de l'album et du spectacle. C'est le dernier morceau que je composais. Et c'était le plus difficile parce qu'il y avait déjà toute une histoire et il fallait quelque chose de très précis. Alors je ne vais pas dire quoi parce que c'est la surprise de l'histoire aussi des spectacles. Mais voilà, une histoire et c'était la fin. Il fallait raconter cette fin-là et il fallait vraiment la chanson. C'était tout très déjà précis. Il fallait une telle ambiance, tel texte, telle longueur, tel tempo, tel... Plus c'était un peu... On va dire plus ça devient concret... Plus ça devient compliqué pour moi. Plus il y a de liberté, plus d'ouverture au début, plus c'est facile parce que je peux aller un peu n'importe où. Plus l'album est construit, plus je vois un peu qu'il manque telle ou telle couleur pour équilibrer en fait l'ensemble, quoi. Donc voilà. Mais globalement, pour revenir à ta question, globalement, c'est surtout quand même le texte, en fait. Je commence bizarrement surtout par le texte, même s'il n'y a pas forcément la mélodie. Parfois, c'est vraiment que le texte. Et c'est lui qui définit vraiment tout, en fait. L'ambiance, le rythme, même le débit, en fait, de texte va définir le tempo. Je suis, en fait, très dans le rythme, finalement. Le rythme de parole, quoi. Le débit de texte. Ça qui va beaucoup m'apporter, m'amener vers une harmonie ou une mélodie.
Est-ce qu'il a fallu le réconfort de quelqu'un qui maîtrise bien la langue française, d'un correcteur ou pas du tout?
Ah oui, bien sûr, évidemment. Alors, en gros, j'ai écrit des textes intégralement seul, mais après il y avait évidemment énormément d'erreurs grammatiques, de là, de le féminin masculin, parce que ça en polonais, ça fait maintenant 13 ans que je suis en France, mais il y a des choses sur lesquelles j'arrive pas, parce que j'ai appris que par exemple une bague, c'est d'ailleurs c'est, en polonais c'est le, voilà, donc c'est, pour moi c'est ancré comme ça, et si je fais pas attention c'est toujours le même erreur, enfin il y a des choses sur lesquelles je bute vraiment. Donc, il y avait des erreurs comme ça, surtout aussi des temps qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser au quotidien dans langue parlée, que du coup, je ne maîtrise pas du tout. Donc, j'avais besoin d'aide. Je demandais un petit peu à James, notamment, beaucoup à Frédéric Latarsa, qui est mon compagnon, qui est musicien aussi, qui écrit de la poésie, qui écrit des très belles choses d'ailleurs, qui prépare... aussi un spectacle avec James, apparemment ils ont commencé à collaborer. Mais en tout cas, oui, il m'a vraiment beaucoup aidé pour le texte de chansons et pour correction de l'histoire, parce que dans ce spectacle, vous allez voir, il y a aussi des petites parties parlées, parce que c'est présenté comme une conte en fait, c'est une histoire hein, en 13 chansons, un peu à la manière album concept des années 70, un peu chaque chanson, les chansons racontent une histoire, en fait. Il y a un ordre. Et entre deux morceaux, en fait, il y a des textes parlés qui racontent... ça ne raconte pas vraiment la suite de la chanson, mais ça fait un peu le pont entre les morceaux, quoi.
Nelsine, alors, vous étiez en résidence au Centre culturel René Char. Est-ce que c'est une première résidence ou vous avez déjà l'habitude de ce moment de travail?
Vous voulez dire en général ou ici?
Oui, en général.
En général, oui, j'ai l'habitude. J'ai déjà fait pas mal de résidences et le plus, c'était au Café Croix. J'ai très, très bons souvenirs parce que bon, c'est un endroit où on est très, très bien accueillis. C'est vrai que c'est des moments vraiment importants pour le musicien, je trouve, hein, parce que quand on n'est pas super connu, on n'a pas le moyen d'avoir une super salle chez soi d'enregistrement avec tout le matériel qu'il faut. Bon, on se débrouille toujours, on fait un peu le bricolage. Hein, quand on répète dans les salles, il n'y a pas le bon son. Donc on est toujours limité, en fait. Et quand on joue la musique amplifiée et pas la musique acoustique ou baroque, ou voilà, tout de suite, on est limité, on peut pas, on bute, en fait, si on n'a pas si on s'entend pas, si on n'a pas le bon son, ben, on peut pas faire grand chose, en fait. Donc, on avance jusqu'à un certain point, et puis après, on est vite bloqué, quoi. Donc, déjà, pour le son, hein. Puis, deuxièmement, pour la scène, c'est vraiment génial, évidemment, parce que l'espace.
Ça représente combien d'heures de travail par jour? Vous commencez, quel est votre emploi du temps, on va dire, quand vous êtes arrivé lundi, par exemple, il y a un temps d'adaptation, quelles sont les premières choses qui sont posées?
Alors là, je fais un peu l'usine, hein, j'avoue que, parce que tout était, mais bon, c'est un peu exceptionnel, hein, parce que tout était fait dans un temps record, en fait. C'était lié au fait que j'avais de gros soucis de santé l'année dernière, j'étais à l'hôpital, bon, enfin bref, donc en fait, j'ai pris beaucoup de retard, j'ai commencé à vraiment retrouver la santé qu'au mois de septembre. Donc il fallait que je monte tout. Je commençais pratiquement au mois de septembre, en fait, à faire tous les arrangements pour ce concert. Donc c'est vraiment, c'était l'usine, hein. Je me plains pas parce que j'adore mon travail, mais c'était vraiment costaud. Et pareil pour le musicien. D'ailleurs, ils étaient vraiment exceptionnels pour faire tout le travail qu'ils ont fait en 3 mois, 4 mois. Je reviens pas. Et donc là, on a fait un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est arrivé à 9h, on commence à 9h. on fait pratiquement pas de pause, on s'arrête à midi, on va dans le snack en face pour économiser le temps, on mange plus vite possible, mais quand même, on s'aère quand même, ça me fait sortir aussi, c'est bien. On revient, on recontinue jusqu'au maximum, on tire jusqu'au maximum, ils nous aiment pas trop, je pense, parce que on le fait travailler tard, du coup, normalement, on est censé finir à 6 heures, mais on dépasse toujours. Et quand on rentre, on tombe de fatigue, et le jour après, c'est pareil. Donc voilà.
Vous êtes une vraie bosseuse et une équipe qui vous suit sans broncher, on va dire.
Oui, puis enfin même pas qui me suit, mais aussi qui crée aussi, qui co-crée avec moi. Hein. Parce que même les parties, par exemple, de violon ou flûte ou basse que j'ai écrites, ok, ils sont écrites, mais après il y a toute la partie interprétation et puis leur personnalité qu'elle apporte, vraiment unique chacune, et leur présence. Et ils sont vraiment très investis dans le projet. Je m'attendais pas à ça, donc je suis très très heureuse, je me sens vraiment portée aussi, en fait. Elle injecte aussi beaucoup d'énergie de leur côté, en fait.
Et quand on fait comme ça une résidence, est-ce que ça implique que vous ameniez votre ingénieur du son, votre chef de régie lumière, ou vous pouvez bénéficier des services du service culturel, par exemple?
Oui, oui, normalement on peut. Mais, je me suis dit que c'était très bien d'avoir une fois quelqu'un qui est sur place, mais après, pour tous les autres concerts, comment on va faire? Donc moi, je voulais profiter justement de cette résidence pour avoir, voilà, après, quand on va jouer dans d'autres endroits, d'avoir toujours la même personne qui fait la lumière, la même personne qui fait le son, c'est le mieux. Hein. Mm-hmm. Mais après, ces personnes qui travaillent ici, elles nous aident beaucoup quand même si, par exemple, bon, Zeb, enfin Christophe qui fait le son, évidemment, bon, lui, il a déjà beaucoup d'expérience, donc il connaît tout, mais Eric, qui fait normalement le son ici, il nous aide beaucoup aussi, il nous donne un petit peu son avis, il est vraiment adorable. Hein. Et Cédric, qui fait la lumière, lui, ça fait pas encore très très longtemps qui bosse sur la lumière, donc c'est d'autant plus vraiment José qui travaille ici, il est vraiment de grande aide par contre pour la lumière. Parce que là, la console est énorme. C'est vrai qu'il n'est pas habitué de travailler sur. Il ne connaît pas ce matériel. Il n'est pas encore. Il n'a pas autant d'expérience que Christophe, par exemple, qui travaille le son. Donc, oui, José, je suis très contente qu'il soit là. Et je pense que Cédric aussi, hein, il apprécie. Hein.
Enfin, pour terminer cet entretien avec vous, le concert approche. Est-ce que vous êtes une bosseuse? Est-ce que vous êtes une traqueuse aussi ou...
Ça dépend. Je pense que je peux avoir le trac quand c'est une première représentation. Là, par exemple, c'est le cas. C'est mon bébé. Je l'ai pas encore montré. C'est la première fois. Donc, il y a une sorte d'excitation, un peu comme la veille de Noël, où on veut ouvrir le cadeau tout de suite et il faut attendre. On est un peu excité, un peu, il y a de l'adrénaline qui monte. Ensuite, par exemple, à Gniepko, quand c'est un spectacle que j'ai tourné déjà, que je jouais beaucoup, tous les week-ends pratiquement, j'avais des concerts. Après, le corps, il prend vraiment ses marques, donc, il y a plus de track. Enfin, personnellement, pour moi, le track, il vient vraiment quand il n'y a pas assez encore de travail qui était fait, ou il n'y a pas assez de marques que j'ai pu prendre, en fait. Voilà, mais ça c'est normal, hein. C'est faire le temps d'adaptation.
Bien, Nelson, merci, et on se languit d'ouvrir le cadeau de Noël avec vous ce samedi au Centre culturel. Merci.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Voilà, c'était Nelson que je vous invite bien sûr à retrouver pour son fabuleux concert avec de la musique baroque et sa voix et ses contes. Elle sera accompagnée donc de ses musiciennes et musiciens dont elle a parlé tout au long de cette interview. Et elle sera également demain matin, samedi 20 février à 11h à la médiathèque pour présenter son travail. Venez nombreux et en tout cas soyez présents pour le concert. C'est 8 euros au Centre culturel René Char et 5 euros pour les moins de 12 ans. Et vraiment, ça vaut le déplacement. Venez nombreux.